Info. Le débrief éco avec Amundi, votre expert en épargne salariale et retraite. Amundi, la confiance, ça se mérite.
Le débrief éco du dimanche soir en partenariat, comme toujours, avec le Cercle des économistes. Bonsoir Emmanuel Cugny.
Bonsoir Catherine, bonsoir à tous.
Alors c'est un débrief éco qui est évidemment très centré sur la campagne électorale puisque nous sommes dans l'entre-deux-tours. On va s'intéresser aux dossiers prioritaires qui attendent le prochain président de la République. Mais d'abord une question, est-ce que les incertitudes et les aléas politiques vont avoir un impact sur la croissance?
Oui, alors effectivement, les chiffres d'ailleurs sont tombés vendredi matin. La France a enregistré au premier trimestre 2017, une croissance de son PIB de 0,3% en repli par rapport au 0,5% qui avait été enregistré au trimestre précédent. La consommation des ménages et nos exportations ont reculé. On a même plus importé. Et puis dans le même temps, la Commission européenne estime que la reprise de la croissance devrait se poursuivre cette année en dépit des incertitudes politiques. Alors vous le disiez Catherine, l'aléa politique peut-il peser sur l'économie française? Dans quelle mesure le moral des ménages a un poids déterminant? Autant de questions donc qui se pose effectivement à la veille du second tour de la présidentielle.
Conséquences de l'aléa politique sur la croissance. On va en débattre ce soir avec Jean-Hervé Lorenzi. Bonsoir.
Bonsoir.
Président du Cercle des économistes et Jean-Marc Daniel. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'ESCP Europe et économiste à l'Institut de l'entreprise. Je voudrais d'abord vous poser une question. Vous demandez ce que vous inspirent les chiffres qu'Emmanuel vient de rappeler sur la croissance française au premier trimestre. Jean-Hervé Lorenzi.
Bon, il m'inspire en réalité ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'amélioration légère de l'activité en France. On est sur un rythme de croissance de l'ordre de 1,5. Ce qui compte, c'est de regarder le nombre de créations d'emplois marchands. Et ce n'est pas à tomber à la renverse, mais c'est quand même non négligeable. Et on annonce une assez forte croissance du nombre d'emplois créés marchands.
Donc ça vous semble crédible. En règle générale, ça vous semble crédible.
Non seulement ça me semble crédible. Alors je rajoute juste un point que Emmanuel n'a pas évoqué, c'est le fait que l'investissement se porte plutôt assez bien. Donc on est sur quelque chose de 1,5. Voilà, et on fera 1,5.
Alors merci François Hollande.
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire merci à François Hollande. Je pense qu'on est dans une logique cyclique. Tous les pays autour de nous connaissent une amélioration de la croissance avec les mêmes ressorts. C'est-à-dire, on a bénéficié à un moment donné du contre-choc pétrolier. On voit bien que l'économie française n'a pas été capable de véritablement en bénéficier autant que d'autres pays. Puisque, vous l'avez dit, le commerce extérieur a plutôt tendance à se détériorer. C'est-à-dire que le gain de pouvoir d'achat lié au contre-choc pétrolier a été utilisé pour acheter des importations. Les deux éléments qui sont plutôt positifs, le premier élément, c'est effectivement la relance de l'investissement. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a des indicateurs assez bizarres autour de l'évolution de l'emploi. Les derniers chiffres de Pôle emploi ne sont pas très bons. Mais par exemple, le nombre d'allocataires du RSA a baissé l'année dernière. Donc on voit que la situation globale de l'emploi a plutôt tendance à s'améliorer. Le problème, je pense, c'est que l'économie française souffre à l'heure actuelle encore d'un problème d'efficacité de son appareil productif. Et donc, je ne dirais pas merci François Hollande, je dirais pourquoi François Hollande avez-vous détruit l'économie française par votre matraquage fiscal du début de votre quinquennat ?
Jean-Hervé Lanzi.
Oui, je dois dire que Jean-Marc, sur ce point-là, c'est suffisamment rare pour qu'on puisse le souligner, a raison.
L'émission n'est pas terminée, hein, loin de là.
Non, je plaisante, mais il a tout à fait raison de souligner qu'il y a deux périodes dans le quinquennat de Hollande. Il y a une première période de 2 ans où ça restera comme une sorte de cas unique d'erreur économique.
De délire fiscal.
Parce qu'il y avait un tel souci de se différencier par rapport au président précédent. Et puis la suite est pas si mal que ça. Cela étant dit, quand on regarde bien, le fameuse inversion de la courbe de chômage, c'est 600 000 emplois quand même, chômeurs de plus en 5 ans, ce qui est énorme.
Bon, voilà, alors maintenant, il y a les réformes qui arrivent derrière. On parle beaucoup de croissance qui dépend de la confiance, notamment du moral des ménages, du moral des acteurs économiques. Est-ce que les profondes réformes qui vont devoir arriver sont de nature à entretenir cette confiance, ce moral, Jean-Marc Daniel?
Alors, je pense que la confiance est effectivement un facteur. C'est difficile à mesurer. Le problème de la confiance, c'est que c'est très difficile à mesurer, donc très difficile à intégrer dans les modèles de prévision. Je crois qu'il y a deux éléments qu'attendent les Français. C'est effectivement une forme de lisibilité dans la politique économique. plus que la confiance, je pense que c'est la lisibilité. Qu'est-ce qui va se passer pour leur capacité à s'adapter à cette évolution? Et le deuxième élément, je crois qu'il ne faut pas non plus surdéterminer l'impact de la politique économique. Regardez ce qu'on a dit sur le Brexit. Il y a encore au mois de novembre 2016, Monsieur Hammond, le chancelier de l'Échiquier, nous disait « Je vais vers la récession, il va falloir que j'augmente les salaires pour soutenir la demande et je ne vais pas faire une politique d'austérité. » Et puis là, le dernier budget qu'il a présenté, il a dit « En fait, il ne se passe rien et le véritable enjeu de l'économie britannique reste son déficit extérieur. Et donc, je suis obligé de corriger l'excès de demande qu'il y a dans l'économie britannique. » Donc, je pense que les fondamentaux de l'économie française restent les mêmes, que la personne qui va arriver va être obligée, là aussi, de tenir compte du fait que nous avons un commerce extérieur détérioré. Donc, on a une situation d'appareil productif à rendre plus efficace, plus compétitif, et que ce qu'attend la population, c'est fondamentalement de la lisibilité. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Quelles que soient les réformes, quelle que soit la violence des réformes, Jean-Hervé Lorenzi.
Là, je ne suis pas du tout d'accord. Je veux dire, je pense que la politique économique qui peut être menée, je crois qu'on n'a pas le droit d'évoquer le tel ou tel candidat, mais donc on est bien d'accord. Mais on voit bien que dans les deux cas, il y a des propositions de politique économique. Elles n'ont pas été assez débattues.
Bon, on va y venir dans la deuxième partie de cette émission.
Dans un cas, on dit on est quand même très déterminé par l'appartenance à l'Union européenne, ou plus exactement, on souhaite sortir. Dans l'autre cas, il y a quand même trois mesures majeures qui joueront sur l'affaire. La baisse de la fiscalité sur les revenus de l'épargne, c'est très important. L'affaire des retraites, par points, il faut 10 ans ou 15 ans pour y arriver, donc c'est moins important. Et le troisième sujet, qui est quand même l'idée qu'on élargit le champ de, au fond, des systèmes d'assédic et de chômage pour des gens qui vont créer des entreprises, ça signifie qu'on pousse quand même à une sorte de libération des énergies. Les trois points sont importants. Donc,
qu'on peut réformer et mener des mesures à terme en gardant la confiance des électeurs ? C'est compliqué.
Oui, je crois que les électeurs sont très vite déçus. On le voit d'ailleurs tout autour de nous. C'est-à-dire que Matteo Renzi, qui avait été présenté comme un réformateur brillant, compétent, et qui avait la confiance de son peuple, a perdu le référendum qu'il a fait. De même, on est 100 jours après l'élection, enfin la prise de pouvoir par Donald Trump. Et lui aussi, il avait annoncé des réformes.
Il fait l'inverse.
S'il fait le quart de sa réforme fiscale, c'est géant. Hein. Sa réforme fiscale est très importante pour le monde entier, s'il le fait au quart.
Encore une fois, je pense que dans toutes ces réformes, le véritable enjeu, le véritable problème, on l'a vu, donc je parlais de Matteo Renzi, mais on peut reprendre toute la politique économique que nous avons eue en France depuis une quarantaine d'années. À chaque fois, on commence par des réformes, on commence par des baisses d'impôts, comme l'a dit Jean-Hervé, puis ensuite, comme on a du déficit budgétaire et comme on se heurte au mur de dette, on va à l'inverse. Et donc, je pense que ce que les gens attendent, c'est plutôt une continuité dans l'effort, une continuité dans la politique économique, qu'une multiplication d'un de réforme.
On va marquer une pause, si vous voulez bien, messieurs. On va parler justement de tous ces chantiers qui attendent le futur président de la République. C'est dans un instant.
France Info. 17h-20h. Catherine Potier.
19h20, le rappel de l'info. Tout de suite, Diane Ferchit.
Après avoir visité Oradour-sur-Glane cette semaine, village martyr de la Seconde Guerre mondiale, Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui au mémorial de la Shoah et à celui des martyrs de la déportation à Paris. C'est la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation, 72 ans que les camps de concentration nazis ont été libérés. Et le candidat d'En Marche a reçu un nouveau soutien ce dimanche, celui de l'ancien ministre et dirigeant centriste Jean-Louis Borloo. Celui-ci dit s'engager à fond pour Emmanuel Macron. C'est selon lui le seul catalyseur du choix de l'avenir. Marine Le Pen, elle, a pris position en faveur de l'écologie. Aujourd'hui, la candidate du Front National en visite surprise à Gardanne, près de Marseille. Elle s'est rendue devant l'usine Alteo, usine au cœur du scandale des boues rouges rejetées dans les Calanques. Mais Marine Le Pen n'a pas pu pénétrer dans le bâtiment. La direction affirme ne pas avoir été prévenue de sa visite. Près de Tours, un participant au Technival de Pernay en Indre-et-Loire est mort la nuit dernière. On ignore toujours les raisons de son décès. Deux autres personnes sont en urgence absolue. Elles ont dû être évacuées. Le festival de musique techno non autorisé a rassemblé jusqu'à 30 000 personnes. Il doit se poursuivre encore jusqu'à demain dans la nuit. Le top 14 de rugby, 25e journée. Le Stade français l'emporte 27 à 23 face au Racing 92. Un peu plus tôt, La Rochelle, déjà assurée de disputer les demi-finales du championnat, a encore creusé l'écart en tête en s'imposant 40 à 37 face à Montpellier.
France Info.
La suite du débrief éco du dimanche soir avec Emmanuel Cuny, bien sûr, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et Jean-Marc Daniel de l'Institut de l'entreprise. On parlait à l'instant de l'importance d'une politique économique bien menée pour entretenir la confiance et donc la croissance. On va voir maintenant dans le détail les chantiers qui attendent le futur président de la République.
Ben oui, parce qu'il y a la hausse des dépenses, le protectionnisme et la sortie de l'euro pour Marine Le Pen, la prudence budgétaire, le libéralisme, le renforcement de l'intégration européenne pour Emmanuel Macron, le second tour de la présidentielle, mais vraiment, on le voit, aux prises, deux candidats aux visions diamétralement opposées de l'économie, emploi, formation, réforme des retraites, assurance santé. Alors, quel que soit le vainqueur dimanche prochain, quel dossier prioritaire s'imposera au futur président de la République?
Jean-Marc Daniel, il y a les idéaux de campagne, il y a les promesses électorales. Finalement, qui va arbitrer tout ça? Est-ce que la conjoncture ne sera pas l'arbitre?
Alors, je crois que la conjoncture va être l'arbitre. On est plutôt dans une phase assez favorable, on l'a dit, la reprise est là. Et donc, la première erreur à ne pas commettre, c'était celle qui avait été commise par le président Sarkozy en 2007, qui avait été de ne pas utiliser l'amélioration conjoncturelle pour remettre de l'ordre, notamment dans les finances publiques. Alors, je crois quand même que dans les programmes des deux candidats, Madame Le Pen a un programme qui est un programme de rupture radicale avec la construction européenne, avec un enjeu sur le maintien de la France dans la zone euro. Et si elle est élue, il faudra de façon très pratique qu'elle prenne des mesures de contrôle d'échange pour éviter une fuite des capitaux, pour éviter des bank runs. Donc, la première personne qu'elle devra rencontrer, si elle est élue dès le 8 mai au matin, c'est le gouverneur de la Banque centrale, de la Banque de France, pour voir comment organiser la vie quotidienne pendant cette période de transition entre le moment où elle aura été élue et le moment où elle aura réalisé la sortie de la zone euro.
Ce qui est différent pour Emmanuel Macron.
Ce qui est différent pour Emmanuel Macron, parce que la rupture est moins brutale, je pense que l'enjeu d'Emmanuel Macron, il est chef de l'État, donc c'est de remettre de l'ordre dans la gestion de l'État.
C'est pas fait, hein.
Et écoutez, à l'Institut de l'entreprise, nous avons encore publié récemment, sous la plume de Michel Pébreau, un rapport sur la situation des dépenses publiques. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes 12 ans après son précédent rapport sur la dette, et rien n'a été fait, si ce n'est d'aggraver la situation.
C'est-à-dire donc des économies.
La première priorité, c'est effectivement de remettre de l'ordre dans la gestion publique et de tendre vers l'équilibre budgétaire. Emmanuel Macron l'a bien dit, d'ailleurs, c'est non seulement un enjeu de génération future, mais de crédibilité européenne.
Donc, premier levier, Jean-Hervé Lorenzi, prendre immédiatement des mesures sur le rythme et surtout le train de vie de l'État.
Non,
on serre la vis.
Bien sûr que non. C'est pas le... Évidemment qu'il faut faire ça. Quand Jean-Marc dit que rien n'a été fait, cette année, on est proche d'un déficit de 3% du PIB. Je veux dire, c'est mieux 4, c'est même mieux que 5, d'après les calculs arithmétiques habituels. Je veux dire, on n'est pas au bord du gouffre. Moi, ça m'a beaucoup frappé de voir à quel point, au fond, les propositions d'un candidat malheureux qui était M. Fillon ne sont pas passées, tout simplement parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de purge à la médecine des médecins de Molière. La réalité, c'est qu'il faut être très sérieux, la réalité, c'est qu'il faut le faire calmement, mais il y a bien d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes que de satisfaire les rapports divers et variés.
Alors,
on verra d'ailleurs.
Voilà, donc les priorités. Les mêmes,
premièrement, et là-dessus, je sans du tout prendre position, mais je trouve que M. Macron a raison, c'est évidemment l'éducation. Le problème clé...
La formation
des gens. Le problème clé, c'est que une des raisons pour lesquelles nous avons tant de mal, finalement, à ce pays qui est quand même talentueux, qui a des ingénieurs exceptionnels, enfin, qui a quand même plein d'atouts, comme un grand pays, ce pays a tant de mal à remonter la pente. Et il a du mal à remonter la pente parce que il a cette difficulté, ce handicap d'une partie de la population qui n'est pas bien formée et qui n'est formée ni au métier dans lequel on pourrait intégrer les gens, ni d'ailleurs, de manière générale, à simplement à vivre dans la société. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je trouve que les points qui ont été évoqués me paraissent bien. Il faut évidemment, fiscalement, favoriser ce qui permet d'investir. Là, je vais rejoindre Jean-Marc. Il faut réinvestir. Nous sommes en déficit d'investissement massif depuis 20 ans. Quand on dit les entreprises investissent, quand on regarde bien, quand on sépare ce qui est l'investissement immobilier et l'investissement en machine, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'investissements immobiliers. C'est que les bureaux sont bien,
il n'y a
pas de robots.
Relancer l'outil de production.
Plus de robots que de mètres carrés et de moquettes.
Oui, non. Là où je suis d'accord, c'est sur la nécessité de faire une politique favorable à l'investissement et à l'investissement privé. Il y a beaucoup de gens dans la campagne qui ont dit « Moi, j'ai une solution pour relancer l'investissement. On va rajouter de l'investissement public. » Je crois qu'il faut prendre des mesures de baisse considérable de l'impôt sur les sociétés. D'ailleurs, c'est dans l'héritage du gouvernement Santon, l'héritage du gouvernement Valls. Alors, concernant les dépenses d'éducation, le seul problème, c'est que depuis que Chevènement a annoncé qu'on allait porter 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, on a multiplié par deux les dépenses d'éducation en euros constant, c'est-à-dire en pouvoir d'achat, en réalité de dépenses, en volume, par élève traité dans, par le système scolaire, et on a jamais eu autant d'élèves mal formés, de gens, de décrocheurs. Donc je crois que la réflexion sur l'éducation ne doit plus être une réflexion purement on va recruter, on va dépenser, il faut véritablement réagir.
La méthode.
Et ça coûte quand même ou pas alors?
Mais je suis persuadé qu'on peut faire des économies dans le budget de l'éducation à condition d'avoir une véritable politique de qualité, une politique d'excellence et pas une politique de dépenses à tout va.
Ces économies générales, Jean-Marc Daniel, vous les évaluez à combien? Pas uniquement dans l'éducation nationale,
je pense que la réforme drastique que vous évoquiez au début. Je pense que la première nécessité du nouveau président, ce sera de voter un budget à l'équilibre primaire, c'est-à-dire dans lequel les dépenses publiques courantes, indépendamment de la charge d'intérêt, seraient couvertes par les impôts. Ça veut dire 25 milliards d'économies dans le collectif budgétaire de juillet.
Jean-Hervé Laurenti, 25 milliards d'euros, crédible, non, pas crédible?
Bien sûr que ce n'est pas crédible.
Ah. Comment ça, ce n'est pas crédible?
Bien sûr.
Je tiens à rappeler simplement que le budget de la Grèce était équilibré l'année dernière.
Oui,
de la Grèce.
Mais je rappelle que la Grèce est un pays très intéressant. Nous avons vécu avec un fantasme de la crise grecque qui allait secouer le monde, ces trois départements français. C'est très honorable, mais ce n'est pas le sujet. La France ne fera pas 25 milliards de réduction. Il faut essayer de maintenir les 3%
de déficit par rapport au PIB, à la richesse.
Et on se préparera. Il nous reste 11 ans pour préparer le prochain rapport sur la dette publique. Tous les 12 ans, on en fait un.
Mais c'est un peu léger quand même ce que vous dites, Jean-Hervé Laurent.
Non, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Il faut essayer de voir dans quel monde nous sommes. Je rappelle que la dette, entre 2008 et 2013, mondiale, privée et publique, a augmenté de 57% dans le monde entier. Donc arrêtons de nous autoflageller sur la Grèce, bien entendu, mais sur la dette. Et essayons de voir comment on peut rendre des services qui ne coûtent pas plus cher, mais qui sont plus adaptés. Essayons de repenser notre modèle de formation. On a un petit sujet, c'est que 30 000 jeunes arrivent dans l'enseignement supérieur cette année. 30 000 de plus. On va tirer au sort le fait qu'ils rentrent dans telle ou telle filière. Est-ce que vous imaginez le pays qui se considère comme le plus intelligent au monde sortir la mesure la plus stupide? Donc, c'est tout ça qu'il faut remettre à plat. Évidemment, il y a des endroits où on peut faire des économies. Évidemment, c'est les 25 milliards qui me
paraissent. Jean-Marc Daniel,
30 secondes. Je trouve que Jean-Hervé Laurenti, il fait preuve d'une très grande insouciance quand il dit, vous savez, la dette a augmenté de 57%. C'est pas grave, mais il faudra bien que ça s'arrête un jour. On ne va pas endetter le monde comme ça à l'infini en disant que c'est pas grave. Il y a un moment où il faudra la rembourser.
Non, je suis d'abord, cher ami, je vous renvoie à un livre qui raconte 2000 ans de dette. La bagarre entre les débiteurs et les créanciers, c'est ancien. Et deuxième sujet, que faites-vous pour la dette mondiale, mon cher Jean-Marc? Ce sera un autre débat. Moi, je veux bien qu'on dise qu'il va la rembourser, mais comment on fait tout le monde? Alors, tout le monde pense que l'inflation résoudrait le problème. Ce qui tend à prouver qu'on aime bien la magie en économie, l'inflation.
On ne va pas les mettre d'accord ce soir, Emmanuel.
Heureusement.
Merci à vous trois, en tout cas, ce soir. Jean-Hervé Laurenti, président du Cercle des économistes. Jean-Marc Daniel, économiste à l'Institut de l'entreprise. Emmanuel Cuny,
bonne
soirée.
On ne se retrouve pas la semaine prochaine, puisqu'on sera
en édition spéciale sur France Info, bien sûr, avec l'élection du nouveau président ou nouvelle présidente de la République.
Le débrief éco avec Amundi, votre expert en épargne salariale et retraite. Amundi, la confiance, ça se mérite.